السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا إلى كل خير، ويصلح أمورنا كلها، ويغفر لنا ذنوبنا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا. وبعد، nous n'allons pas continuer le cours sur أحكام الصيام exceptionnellement. Inch'Allah ta'ala, on finira la semaine prochaine. نقرأ رسالة مهمة قيمة للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة وأدلتها، les trois fondements. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez lu, étudié, pour certains d'entre vous, mémorisé. C'est un livre auquel les savants accordaient beaucoup d'importance. Pour plusieurs raisons, entre autres, l'auteur et le contenu. L'auteur, vous le connaissez tous, c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et le contenu, al-usul al-thalatha, nisbatan ila as'ilat al-malakayn fi al-qabr. Fayus'alu al-abdu fi qabrih an rabbihi azza wa jal wa an dinihi wa an nabiyyihi. وبعد ذلك ينقسم الناس إلى فريقين، السعداء والأشقياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. L'auteur dont vous le connaissez tous, c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab, رحمه الله تعالى, qui est né en 1115 de l'Égypte et décédé en 1206. C'est le grand savant reconnu et qui a de nombreux écrits dans la purification de la croyance. Parmi ses livres les plus connus, si ce n'est le plus connu, Kitab al-Tawhid, alladhi wa haqqullahi ala al-abid. Parmi ses écrits, Nawaqid al-Islam, Masail al-Jahiliya, Al-Qawa'id al-Arba'a. Et parmi ses écrits, le livre que nous avons entre nos mains, Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, les trois fondements, les trois fondements. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié ce livre à plusieurs reprises. Et nous allons le lire à nouveau d'une manière plus résumée, sans délaisser les choses importantes et sans s'étaler. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. L'auteur رحمه الله تعالى a commencé son livre par al-basmala. Al-basmala, c'est le fait de dire ou d'écrire bismillah ar-rahman ar-rahim, et ceci afin de prendre exemple sur le Coran, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également de rechercher la bénédiction auprès d'Allah azza wa jal et son aide. Il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il commence son écrit avec des invocations bénies pour toute personne en quête de sa voie à la recherche de la vérité, de la vérité par laquelle le serviteur obtient la réussite et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Rahimak Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. C'est-à-dire qu'il t'efface tes fautes passées et t'accorde la réussite et te préserve dans le futur. Rahimak Allah, annahu yajibu alayna, qu'il nous est obligatoire, ta'allumu arba'i masa'il, d'apprendre quatre points essentiels. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Donc quatre points essentiels dont l'apprentissage nous est obligatoire. Le premier est la science, qui consiste en la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de la religion musulmane, et tout ceci avec les preuves. Le deuxième point, la mise en pratique de cette science. Le troisième point, exhorter les gens à cela, les inviter, les appeler à cela. Le quatrième point, l'endurance et la patience face aux préjudices qui en résulteront. Et la preuve, c'est-à-dire de ces quatre points, est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Asr, le temps, dont la traduction est: par le temps, l'humanité est en grande perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui accomplissent de bonnes œuvres et qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement l'endurance. Donc le premier point, c'est la science. Al-ilm ma'rifatul huda bidalili, comme a dit l'allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. La science se définit comme étant la connaissance de la voie authentique avec ses preuves. La connaissance de la voie avec ses preuves, ça c'est la science. Tu dois connaître Allah en sachant qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le maître des mondes, le seul créateur, le maître absolu. Il a les noms les plus parfaits, les attributs complets, il n'a aucune imperfection, c'est donc le seul qui mérite entièrement l'adoration. Tu dois savoir qu'Allah est parfait, c'est le maître des mondes et c'est le seul à mériter l'adoration. C'est le minimum que tu dois savoir. Tu dois connaître également, tu dois aussi connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois savoir qu'il se nomme Muhammad, na'am, et qu'il nous a été envoyé à nous et l'ensemble des mondes. C'est le dernier prophète et messager. Tu dois également connaître la religion. C'est l'islam, la seule religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée. Ici l'auteur nous a cité cela de manière synthétique et il le développera plus loin dans le livre inshallah ta'ala. Il nous dit avec les preuves. C'est-à-dire que tu ne dois pas suivre aveuglément. Cette religion, c'est un héritage. Cette religion, c'est un héritage. Et cette religion est basée sur la connaissance, sur la science. Non pas comme les autres religions qui sont basées que sur les conjectures et les doutes. Naam, cette religion, c'est une religion de science. Ce qui marque la distinction entre le vrai et le faux. La droiture et l'égarement. Celui qui a raison de celui qui a tort, c'est l'ilm. C'est la science. Ça n'est pas la richesse, ça n'est pas la couleur, ça n'est pas la classe sociale, c'est l'ilm. Naam. Tout cela donc avec les preuves. Le deuxième point, c'est la mise en pratique de cette science. Tu ne dois pas faire devancer les actions sur la connaissance. Car l'action, pour qu'elle soit acceptée chez Allah tabaraka wa ta'ala, il faut deux choses. La première chose, c'est la sincérité. C'est-à-dire que ton action soit faite en conformité, ou plutôt soit faite à la recherche de l'agrément d'Allah. Tu fais cela en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point pour qu'Allah accepte ton action, c'est al-mutaba'a, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ton action soit faite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. S'il manque une de ces deux choses, Allah n'acceptera pas du serviteur l'action. Donc, la science vient avant la mise en pratique. Pour agir comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir comment agir. Et cela passe par la connaissance, par la science. Donc après avoir eu la science, tu dois mettre en pratique. Tu dois mettre en pratique. Le troisième point, exhorter les gens à cela. Celui qui a su, avec l'épreuve, qui a agi, appliqué en conformité avec la sunna à la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne doit pas restreindre ce bien à sa personne. Mais il doit vouloir le bien pour les autres, pour ses proches parents, pour ses voisins, na'am, pour son peuple, pour les étrangers, pour les autres, pour les musulmans, pour les non-musulmans. Il doit vouloir le bien pour tout le monde. Puis certains accepteront la lumière émanant d'Allah Azza wa Jal, et certains se détourneront de son message car ils n'auront pas obtenu la réussite de la part d'Allah Azza wa Jal. Et pour prêcher, il te faut avoir l'ilm. Na'am. Car celui qui est ignorant, à quoi est-ce qu'il va appeler? Celui qui est ignorant, à quoi est-ce qu'il va appeler? Na'am. Un frère est venu mercredi, walhamdulillah, et il me dit qu'il s'est converti il y a une semaine. Il me dit qu'il s'est converti il y a une semaine. Et qu'il est avec un groupe de frères qui prêchent. Ils restent dans les mosquées et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. D'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, de rester au masjid, de prêcher tout ceci en bien. Mais billahi alaykum, quelqu'un qui s'est converti il y a une semaine, quelqu'un qui s'est converti il y a une semaine, na'am, quel prêche est-ce qu'il pourra adresser aux gens? Quelle connaissance est-ce qu'il a eue? Na'am, il y a des choses qui sont connues de tous, il y a des choses auxquelles on peut appeler même sans avoir étudié. Na'am, adorer Allah, accomplir la prière, avoir un bon comportement, être bien envers ses parents. Na'am, mais les détails de la religion, les détails bima'na tafsil, na'am, les ahkam, les jugements, le halal, le haram, les yani, l'appel au tawhid en détail, la mise en garde contre le shirk en détail, tout cela nécessite une science. Tout cela nécessite une science. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah. J'appelle à Allah, ça c'est la da'wa. عَلَى بَصِيرَةٍ, avec clairvoyance, avec science. Moi et ceux qui me suivent. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Exempté soit Allah, je ne suis point du nombreux des associateurs. Dans ce verset, on nous enseigne manhajou da'wa, le chemin à suivre dans la prédication, le fait d'appeler Allah avec sincérité et le fait de ne pas appeler à sa personne ni à un groupe. On appelle à Allah, on appelle à la ilaha illallah ou tawhid. Avec science, ceux qui font cela sont sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont la science et n'appellent pas à Allah ne sont pas sur son chemin. Et ceux qui appellent à Allah sans science ne sont pas sur son chemin. Ceux qui sont sur son chemin sont ceux qui appellent à Allah avec sincérité, avec science, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il te faut avoir les provisions si tu veux appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième point, l'endurance face aux préjudices qui en résulteront. C'est-à-dire que celui qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala se retrouvera forcément dans des situations difficiles. Pourquoi ? Car la plupart des gens, comme Allah nous le décrit dans le Coran, « La ya'lamoun » ils ne savent pas. « La yafqahoun » ils ne comprennent pas. Sont égarés. Na'am. Associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la plupart des gens ne sont pas sur la vérité. Ils sont sur le faux. Donc toi tu vas venir en face de leurs passions, en face de leurs habitudes, en face du chemin de leurs ancêtres. Certains mettent comme guide devant eux le Coran et la Sunna, alors ils vont suivre. Mais d'autres mettent devant comme guide les ancêtres, comme guide Maza, le pouvoir, comme guide telle chose et les passions. De façon générale, les passions. Donc, tu vas subir des choses difficiles. Quel devra être le comportement du prêcheur à ce moment-là, qui a su, qui a appliqué? Il devra se montrer endurant. As-sabr, l'endurance, dans la langue arabe, c'est le habs, c'est l'emprisonnement. Et dans la religion, c'est le fait, يعني حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعند أقدار الله المؤلمة. L'endurance doit être mise en pratique dans trois états. Premièrement, l'endurance dans l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire que tu dois être constant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ce que je vous ordonne, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que je vous ordonne, faites-le autant que possible. Naam. L'endurance devant la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire que tu dois patienter afin de ne pas lui désobéir. Troisièmement, l'endurance lors du décret. Lors du décret, lors des épreuves, lors des difficultés, lors du destin de manière générale, lorsque le destin te touche, naam, dans la difficulté. Dans tout cela, tu dois te montrer endurant. Tu dois être endurant. Et Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, a cité une information des plus subtiles à cet endroit de son explication. Il dit que beaucoup expliquent cela en disant l'endurance que dans la da'wah. Et il dit en réalité, il faut l'endurance dans tous ces points. Il faut l'endurance dans talibul ilm, dans la recherche de la science. L'endurance dans l'amal ou bil ilm, la mise en pratique de la science. L'endurance dans la da'wah. Il faut l'endurance dans tout cela. Il faut l'endurance dans tout cela. Naam. La preuve, c'est Sourate Al-Asr. La preuve, c'est Sourate Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala aqsama, yani aqsama Allah subhanahu wa ta'ala bil-asr, wa huwa al-zaman. C'est le temps. Naam, c'est la succession du jour et de la nuit. Il a juré par le temps de par son importance et de par sa noblesse. Inna al-insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Fi khasaratin azima wa halaka. L'homme est en perdition. Ça englobe l'ins ou le djinn. Ça englobe les humains. Min bani Adam. Ça englobe aussi les djinns. Ceux auxquels ont été envoyés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah azza wa jal a fait l'exception d'un groupe de personnes ayant réuni quatre caractéristiques. Et lesquelles? Ce sont les quatre caractéristiques citées par l'auteur plus haut. Rahimahullahu ta'ala. Premièrement, la science. Deuxièmement, la mise en pratique de celle-ci. Troisièmement, le prêche, la prédication. Et quatrièmement, l'endurance. Quatrièmement, l'endurance face aux préjudices qui en résulteront. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Illa alladhina amanu fi hadha dalilun ala madha al-ilm. Wa amilu salihat fi hadha dalilun ala amal bil ilm. Wa tawasaw bil haqqi fi hadha dalilun ala ad-da'wati ilayhi. وتواصوا بالصبر في هذا دليل على الصبر. Donc la traduction par le temps, l'humanité est en grande perdition, sauf ceux qui ont la foi. Dans cela, il y a la preuve pour la science, car sa place est le cœur, et avec la science, la foi se développe. Et qui accomplissent de bonnes œuvres, c'est la preuve pour la mise en pratique de la science. Qui se conseillent mutuellement la vérité, c'est la preuve pour la prédication. Et se conseillent mutuellement l'endurance, c'est la preuve pour l'endurance face aux préjudices qui en résulteront. Qala al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris, rahimahullah ta'ala, il est né en 150 et il est mort en 204 de l'Égypte. Naam. C'est le grand savant connu. Rahimahullah ta'ala, qala, لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه سورة لكفتهم. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala nous dit, si Allah n'avait fait descendre que cette sourate comme preuve pour ses créatures, cela aurait été entièrement suffisant. Les savants ont dit, si Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé sourate al-Asr simplement, que les gens avaient médité cette sourate, cela aurait été suffisant pour les inviter aux quatre caractéristiques. Cela aurait été suffisant pour que personne n'ait d'excuse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Cela aurait été suffisant pour leur exposer les causes de la réussite et du bonheur. Et non pas que cette sourate aurait été suffisante pour l'adorer et pour la législation et pour le halal et pour le haram. Wa qala al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, rahimahullah ta'ala, il est né en l'an 194 après l'Égypte et décédé en 256. C'est celui qui a écrit le livre le plus authentique après le Coran ou le Karim. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. L'auteur, l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى plutôt a dit ou a intitulé un chapitre dans son livre Sahih al-Jami', connu sous le nom de Sahih al-Bukhari, la science, donc chapitre, la science précède la parole et l'action. Et c'est connu que Fiqh al-Bukhari fi tabwibati, c'est connu que la science de l'imam al-Bukhari était dans les intitulés des chapitres. La science, son fiqh, il le mettait dans l'intitulé de ses chapitres. Donc on voit ici de manière claire la voie à laquelle nous appellent les savants de l'islam. Et cela bien sûr est tiré du Coran et de la sunna. C'est pour cela qu'il nous dit ensuite وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْآيَةَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ كَذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إِلَّا أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ الْبُخَارِ رحمه الله تعالى يَنْتَهِي إِلَى قَوْلِهِ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ. L'imam al-Bukhari a écrit un chapitre intitulé La science précède la parole et l'action. C'est-à-dire que la personne avant d'agir à la recherche de l'agrément d'Allah, elle doit s'instruire, elle doit apprendre, elle doit savoir ce qu'Allah veut d'elle, comment faire cette action, à quel moment, de quelle manière. Cela nécessite et requiert la science. Donc ça doit venir avant la parole et les actes. La preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la traduction est « Sache que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et demande le pardon pour tes péchés. » Ici, on voit de manière claire qu'Allah a commencé par la science. Sache. D'accord ? Sache. La science de là, il est Allah ici en l'occurrence. Et demande pardon pour tes péchés. Ceci est une parole et une action. Donc, on voit de manière évidente qu'il nous faut commencer par la connaissance, par la science, avant même la parole et les actions. La deuxième introduction du livre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « I'lam rahimakallah ». أنه يجب على كل مسلم وكل مسلمة تعلم هذه الثلاث أو تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. L'auteur nous dit dans une seconde introduction, sache qu'Allah te fasse miséricorde. À nouveau, il attire ton attention. Lorsqu'en arabe on dit i'lam, c'est pour attirer l'attention sur une chose importante qui va venir. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. À nouveau, une dua. Il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre les trois points suivants et de les mettre en pratique. Donc après les quatre masa'il, la science, la mise en pratique, la prédication et l'endurance, il y a ensuite trois choses à savoir. Il y a ensuite trois choses à savoir. Donc vous retenez les quatre premiers points et par la suite il y a trois autres points. Et au final, incha'Allah ta'ala, vous me ferez le résumé, incha'Allah ta'ala, de ce que nous aurons lu. بعون الله عز وجل الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسلنا إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Le premier point, c'est qu'Allah nous a créé, a subvenu à nos besoins et ne nous a pas laissé à l'abandon. Bien au contraire, il nous a envoyé un message. Celui qui lui obéit entre au paradis, celui qui lui désobéit entre en enfer. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est notre créateur. Na'am, c'est notre maître. Celui qui nous a créé à partir de rien. Et celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Na'am, et notre pourvoyeur tabaraka wa ta'ala. Il ne nous a pas laissé à l'abandon. Ayahsabu l'insan wa ayyutaraka suda. Allah nous dit dans le Coran, est-ce que l'homme pensait qu'on allait le laisser sans obligation à observer? C'est-à-dire sans lui donner d'ordre ni d'interdit, comme a expliqué Ibn Abbas dans le tafsir. Allah nous dit également, عَفْوَنَا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَعَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Pensiez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Allah est au-dessus de cela. Donc ça, c'est la aqidah batila des mouchriquines. Ça, c'est la fausse croyance des associateurs. Le fait de penser qu'on est fait dunya pour boire, manger, et que rien ne nous fera mourir si ce n'est le temps, et que l'on ne sera pas ressuscité pour être jugé. Na'am. Ça, c'est une croyance batila. Fawailu lilladhina kafaru. Na'am. Ou bien le verset dans Suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt à la fin de Na'am, dans Suratu Ali Imran. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhab an-nar. Et à la fin de Surat al-Mu'minun, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ الْآيَةِ. Donc la croyance des gens de la vérité, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé tout cela en vain. Il a créé tout cela pour une vérité. C'est qu'on est là dans l'épreuve. pour adorer Allah Azza wa Jal seul dans le culte sincère. Et celui qui fait cela entrera au paradis, celui qui se détourne de cela entrera en enfer. Naam. Alors que la croyance des gens du faux, c'est de croire qu'on est là et qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de résurrection ni de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugé. Donc voici la croyance du muwahhid, du monothéiste, la croyance authentique, le fait d'avoir comme conviction ferme qu'Allah est le créateur de toutes choses, que c'est lui notre pourvoyeur, naam, et qu'il nous a envoyé le messager pour nous enseigner comment l'adorer et quel est le chemin à emprunter pour avoir son agrément et la féliciter. L'auteur nous dit aussi, celui qui lui obéit entre au paradis, celui qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète et messager, et celui qui lui désobéit entre en enfer. Puis il nous cite la preuve de cela. Donc la première mas'ala est relative à quoi? Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Il doit reconnaître qu'Allah est ton maître absolu, seul créateur, le seul pourvoyeur. Et qu'il t'a pas laissé ainsi sans ordre à observer, il t'a plutôt envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. La preuve de cela est inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Allah nous dit un verset dont la traduction est: nous vous avons bien envoyé un messager témoin de vos actes et paroles, de la même façon que nous envoyâmes un messager à Pharaon. Pharaon, le pharaon désobéit alors au messager et nous l'anéantîmes par un dur châtiment. Nous vous avons bien envoyé un messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, témoin de vos actes et paroles, de la même façon que nous envoyâmes un messager, c'est-à-dire Moussa ibn Imran alayhi salam, à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, c'est-à-dire à Moussa alayhi salam, nous l'anéantîmes par un dur châtiment. Quel est ce dur châtiment? L'humiliation et la noyade dans ce bas monde, naam, et le feu dans l'au-delà. Et le feu dans l'au-delà. Et entre les deux, le matin et le soir, ils sont exposés au feu. Entre les deux, fil barzakh, le matin et le soir, ils sont exposés au feu. Comme dans Sourate. Dans Sourate Ghafir, si je ne me trompe pas. Naam. Dans Sourate Ghafir, si je ne me trompe pas. Du premier point découle le second. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Le deuxième point, Allah n'admet aucunement qu'on lui attribue un quelconque associé dans les actes d'adoration. Même s'il s'agit d'un ange proche d'Allah ou d'un prophète envoyé. Celui qui reconnaît le premier point, c'est-à-dire qu'Allah est le seul créateur, le seul maître, le seul pourvoyeur, et que c'est lui qui nous ordonne et nous interdit, c'est lui qui nous a envoyé le prophète sallam, cette grande miséricorde pour nous montrer le bon chemin, d'accord, et celui qui s'en détournera en enfer. Celui qui reconnaît ça, se doit d'unifier Allah dans l'adoration. De reconnaître qu'Allah est le seul créateur n'est pas une croyance suffisante pour être sauvé du feu de l'enfer. Ce n'est pas une croyance suffisante pour être sauvé du feu de l'enfer. Car les associateurs polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient cela. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ. Si tu leur demandes qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils répondront, c'est Allah. Donc ils savaient cela. Ils savaient qu'Allah était celui qui donnait la pluie, celui qui donnait la vie, la mort. Mais ils lui donnaient des intermédiaires dans le culte. Et cela a fait d'eux des polythéistes. Comme vous l'avez étudié dernièrement, مع العلامة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette croyance pour avoir une croyance et un monothéisme qui sauve du feu de l'enfer, qui fait entrer la personne dans l'islam, qui préserve sa personne, ses biens et son honneur? Il faut tawhid al-ibad al-uluhiyya. Il faut unifier Allah Azza wa Jal dans le culte. Quant à celui qui unifie Allah dans la seigneurie, qui dit qu'Allah c'est le seul créateur,
Allah, c'est mon seul maître, le seul propriétaire. Mais par la suite, lorsqu'il donne l'adoration, il la partage entre Allah et d'autres. هذا مشرك ليس بمسلم ولا مؤمن ولا موحد وإن مات على ذلك فهو من أهل النار عياذا بالله. Celui qui dit qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul maître, mais qui adore Allah et d'autres avec lui, il adore des anges ou des prophètes ou la lune ou le soleil, ou il adore des awliya, ou il adore des saints ou des morts et ainsi de suite, celui-ci est un associateur. Parce qu'il a adoré Allah, mais il a adoré aussi autre que lui. Il a adoré des fausses divinités. Ça, c'est le polythéisme même. Ceci est le polythéisme. Ceci est la croyance de Kuffar Quraysh. Ceci est la croyance des gens auxquels a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui meurt sur cette fausse croyance n'a aucune part dans l'au-delà. Et s'il meurt ainsi en ayant adoré qu'Allah azza wa jal sans s'être repenti, il ira en enfer, iyadhan billah. Donc le serviteur doit unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Al-ibada mahi. Al-ibada lughatan al-khudu'. Na'am. Al-dhul wa al-khudu'. Taqulu al-arab tariqun mu'abbad. Al-ibada dans la langue arabe, c'est le rabaissement et l'avilissement. Les Arabes disent du chemin qu'il est mu'abbad, pour dire qu'il est aplani, rabaissé du fait que les gens ont marché dessus. Donc le sens du mot ibada dans la langue arabe, c'est al-khudu', c'est le rabaissement et l'humiliation. Amma shar'an arrafahu madha arrafa al-allamatu al-mujaddid Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam rahimahullah ta'ala fi bidayat kitab al-ubudiyya faqal العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Le grand savant, Cheikh al-Islam, Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, a défini l'adoration dans son livre Al-Ubudiyya, dans son livre qui s'intitule Al-Ubudiyya, en disant l'adoration est un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et action, comme parole et acte, que cela soit apparent ou caché. L'adoration, c'est un nom général, c'est pas une seule chose ou deux, c'est un nom général, ça englobe beaucoup de choses. Comment reconnaître l'adoration? Ce qu'Allah aime et agrée. Ça englobe quoi? Des paroles et des actes. L'adoration peut être avec la bouche, comme le tasbih, le tahlil, le tilawat du Coran, le da'wat ila Allah. L'adoration peut se faire avec la langue, comme le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, comme le fait d'appeler les gens à Allah. Na'am. Comme de lire le Coran. Ça peut être avec des actions, comme la prière, comme le hajj. Ça peut être apparent et ça peut être intérieur, comme l'amour, la crainte, l'espoir. Tout ça entre dans l'adoration. أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى يُشْرَكَ مَعَهُ. Allah n'agrée pas le shirk. Qu'est-ce que le shirk? الشِّرْكُ تَسْوِيَةُ غَيْرِ اللَّهِ بِاللَّهِ فِي مَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ اللَّهِ. الشِّرْك, c'est le fait de donner un égal à Allah dans une chose qui lui est propre. Na'am. C'est le fait d'élever la créature au même niveau qu'Allah et de lui donner une particularité d'Allah. Ça, c'est le shirk. Wal'iyadu billah. Al-shirk est de deux sortes. Al-shirk al-akbar. Wa kullu shirkin atlaqahu shari' wa kana mutadammina li khuruj al-insani 'an din. Al-shirk al-akbar, c'est tout polythéisme qui a été cité dans les textes, ayant pour conséquence d'excommunier la personne de la religion musulmane, de faire sortir la personne de la religion musulmane, comme le fait de sacrifier une bête pour un autre qu'Allah Azza wa Jalla, comme le fait d'invoquer un mort. Ça, c'est du shirk, parce qu'il a donné une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du shirk akbar. Il y a aussi ce qu'on appelle al-shirk al-asghar. Al-shirk al-asghar, pour définition, kullu shirkin atlaqahu shari' وَلَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لِخُرُوجِ الْإِنسَانِ عَنْ دِينِ. C'est tout polythéisme qui a été cité dans les textes, mais n'entraînant pas l'exclusion de la personne de la religion. Comme le fait de jurer par notre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la base. Comme le fait de porter une amulette, un talisman. Comme le fait de dire c'est ce qu'Allah a voulu ainsi que toi-même. D'accord ? Allah nous a interdit ces deux formes de shirk. Allah n'agrée pas le polythéisme. Allah n'agrée pas que tu l'adores lui et avec lui un autre. Allah veut que tu l'adores lui seul d'un culte sincère. C'est pour cela qu'il t'a créé. C'est pour cela qu'il a envoyé les messagers et les prophètes. Et c'est sur cela que tu seras questionné yawm al-qiyam. Et en fonction de cela que tu auras ta destination finale. Wallahu al-musta'an. Allah n'agrée pas le polythéisme dans l'adoration, même si le culte est voué à Allah et que l'autre est un ange ou un prophète. Allah n'agrée pas. Si Allah n'agrée pas que tu adores l'élite de ses créatures dans les cieux et sur la terre, les anges et les prophètes, à plus forte raison ceux qui sont à des niveaux moindres. Allah n'accepte pas le shirk. Allah déteste le shirk. Allah punit sévèrement pour le shirk. C'est le pire péché par lequel il fut désobéi. Inna shirka la zulmun azim. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Naam. Allah ne pardonne pas le polythéisme, si ce n'est avec le repentir. Allah annule les actions du polythéisme si il meurt sur cela. La preuve de cela, c'est-à-dire qu'il faut adorer Allah d'un culte sincère et qu'Allah n'agrée pas le polythéisme. وَأَنَّ الْمَسَالِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration. Na'am, ces édifices qu'on bâtit pour l'adorer, on doit y adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ces membres qu'Allah nous a accordés pour nous permettre de l'adorer, on doit les utiliser lors de l'adoration qu'à la recherche, pardon, de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et on ne doit pas donner une adoration à autre que lui. Al-Masajid dans ce verset a été expliqué par les exégètes du Coran de plusieurs manières. Al-Masajid, comme cette mosquée par exemple, Al-Masajid A'adha ou Sujud par exemple, Naam, les membres sur lesquels on se prosterne. Wallahu A'lam. Donc, le premier point, tu reconnais l'unicité d'Allah dans la seigneurie, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul pourvoyeur, le seul maître. Tu reconnais le deuxième point, le fait qu'Allah soit le seul qui mérite l'adoration. Ça, c'est le tawhid. Le troisième point, أَنَّ مَنَ طَعَ الرَّسُولَ وَحَدَ اللَّهِ لَا يَجُوزُ لَهُمْ وَلَا تُمَنْ حَدَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٌ. Le troisième point, celui qui obéit au messager et adore uniquement Allah. Ces deux points font référence aux deux points passés. Celui qui obéit au messager fait référence au premier point. Et obéit à et adore uniquement Allah, ceci fait référence au deuxième point. N'a pas le droit d'être l'allié de celui qui renie Allah et son messager. Plutôt celui qui fait scission d'Allah et son messager. Naam. Même s'il s'agit de son plus proche parent. Car la personne, son cœur bouge selon l'alliance et le désaveu. Son cœur bouge selon l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu se font selon At-Tawhid wa Sunnah. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu ne trouveras jamais parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier, aimer ceux qui renient Allah et son message. Font scission avec la voix d'Allah et son message. Même s'il s'agit de leurs propres parents, de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs proches, à ceux-là, Allah inscrit la foi dans leur cœur et les soutient d'un esprit émanant de lui. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Tels sont les partisans d'Allah. Les partisans d'Allah connaîtront vraiment la réussite. هذه عقيدة الولاء والبراء. La dernière introduction avant de développer les trois bases. اعلم ارشدك الله لطاعتي ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها ساش كالله te guide vers son obéissance que la religion ou bien plutôt qu'elle hanifiya est la voie d'Ibrahim. Et ceci consiste à adorer Allah seul d'un culte sincère. El hanifiya ma'akhud min al-hinf wa huwa al-iqbalu ila shay wa yalzamuhu al-i'rad 'an diddi. El hanifiya, ça vient du mot al-hinf ou bien al-hanaf. C'est le fait de pencher vers une chose. Et celui qui penche vers une chose s'éloigne de l'autre. Celui qui penche vers une chose s'éloigne de l'autre. Ça, c'est dans le sens de la religion, ça, c'est dans le sens linguistique. Et c'est pour cela qu'on appelle ainsi celui qui a les jambes arquées. Naam, car ses jambes divergent. La religion pure, al-hanifiyya, dans la religion, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que al-hanif c'est le muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwa. C'est celui qui se dirige exclusivement vers Allah et se détourne de tout autre que lui. Donc al-hanifiyya c'est quoi en réalité? C'est l'islam, c'est le tawhid, c'est l'ikhlas. C'est pour cela que l'auteur l'a expliqué ainsi en disant ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Ceci consiste à adorer Allah uniquement d'un culte sincère. Ça c'est al-hanifiyya, c'est la voie d'Ibrahim. Na'am. Comme Allah nous le cite dans le Coran. Adorer Allah ne suffit pas. Al-Mushrikun adore Allah. Mais ce qui t'est demandé, c'est unifier Allah dans l'adoration. Il y a une différence entre l'ibada et le tawhid. Il y a une différence entre l'ibada et le tawhid. Le tawhid akhas. Le tawhid, c'est plus spécifique. Fakullu tawhidin ibada. Voilà l'aks. Tout tawhid est une adoration. Mais le contraire n'est pas forcément valable. La prosternation, c'est une adoration. Mais est-ce que c'est forcément du tawhid? Si la personne se prosterne uniquement pour Allah, c'est du tawhid. Mais s'il se prosterne pour autre qu'Allah ou pour Allah et autre, c'est pas du tawhid. Na'am, at-tawhid ifradullah bima yakhtassu bih. La définition du tawhid, c'est unifier Allah dans ce qui lui est propre. La définition du tawhid, c'est unifier Allah dans ce qui lui est propre. Les frères, lors d'un cours, Naam, talib al-ilm, il ne mange pas de chewing-gum, il ne mâche pas de chewing-gum. D'accord? Pourquoi est-ce que vous tournez vos têtes et vous cherchez quelqu'un? Ces recommandations, c'est pour vous. Quand on vous fait une recommandation, faut pas chercher quelque chose chez quelqu'un. Je parle à toi. Faut pas chercher les gens. Wa'adah, quand on te donne un conseil, ne cherche pas cette chose-là chez les gens. Prends-le pour toi-même. Naam, même si tu as 90 ans et que le conseil est donné aux jeunes. Même si tu as 5 ans et le conseil est donné aux personnes âgées, prends-le pour toi. Naam, la taltafit. Yaminan wa shimalan, ne regarde pas à droite, à gauche en cherchant qui est-ce qui fait telle chose ou telle chose. Adalay sahib sahih. Naam, on ne met pas dans la gêne nos frères. Wa innama natanasah wa natarabba. Mais on ne fait que se conseiller mutuellement. Wa kulluna dhatu aw dhawu taqsir, et tous, autant que nous sommes sujets à l'imperfection et avons donc besoin de conseils et de s'éduquer. Naam. Et inshallah ta'ala, on ne revoit plus cela de nos frères. Jazakumullahu khayra. Anta fi majlisi tahdhuruhu al-mala'ika. Tu es dans une assise à laquelle assistent les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es dans une assise où tu entends qala Allah, qala Rasulullah azza wa jalla, ou qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc tu dois être présent avec ton qalb, avec ton cœur, avec tes oreilles, ta personne. Naam. Ta langue, ta bouche n'est pas distraite par autre chose que l'ilm. Wadah? Barakallahu fikum. Hada huwa alladhi sastafid. Celui qui assiste ainsi en recherchant le fa'ida, c'est lui qui va profiter du ilm. C'est elle qui va profiter du ilm. Barakallahu fikum. Waffaqana Allahu wa iyyakum. c'est le fait d'adorer Allah. Puis l'auteur dit d'un culte exclusif. Pour exclure ceux qui n'adorent pas Allah, exclure ceux qui adorent Allah, mais avec autrui. Donc il exclut Al-Mulhidun, Mutakabbirun, et il exclut également Al-Mushrikun. Il reste qui? Al-Muwahhidun, il reste les monothéistes, Hizbullah, Awliya'u. Il reste ce qu'Allah Azza wa Jal agré, ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala aime et secoue. Ceux à qui Allah Azza wa Jal a écrit le bien, les monothéistes. Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun, Al-Muhsinoun. Et c'est ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble des gens. Qu'est-ce qu'il a ordonné? Al-Hanifiyya, Al-Islam, Al-Tawhid, Al-Ikhlas. Na'am. والدليل أو كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما مر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. La preuve de cela, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'Allah nous a créés, pour être tawhid, pour l'ikhlas, pour l'adoration d'Allah seul d'un culte sincère. Et la parole d'Allah dans la traduction est « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent ». Le sens de « que pour qu'ils m'adorent » est « que pour qu'ils m'unifient », »,« que pour qu'ils n'adorent que moi ». Na'am. « Que pour qu'ils m'adorent, seul, na'am, exclusivement ». Donc le sens de l'ibad, hein, dans le Coran, c'est « tawhid », comme l'a expliqué ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. Le sens de l'ibada dans le Coran, c'est l'unicité d'Allah. C'est pas la simple adoration qui peut être obstruée, ternie et entachée par le polythéisme, non, mais c'est le monothéisme pur, comme l'a expliqué Ibn Abbas رضي الله عنهما. Puis l'auteur nous dit, après nous avoir enseigné la sagesse de notre création à travers le Coran, après nous avoir expliqué le sens de la ibad voulue par Allah qui est tawhid, il nous dit que la chose la plus importante qu'Allah nous ait ordonnée, c'est de reconnaître son unicité. Ça, c'est la chose la plus importante. Il n'y a pas de chose plus importante que celle-ci. Il n'y a pas de chose plus importante que celle-ci. La chose la plus importante qu'Allah nous ait ordonnée, c'est tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Connaître son unicité et la mettre en pratique. Ça, c'est la chose la plus importante. Il n'y a pas plus important que cela. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir plus important que cela, alors que c'est la sagesse de notre création, alors que c'est la sagesse de l'envoi de tous les prophètes et messagers, alors que c'est la sagesse de la révélation de l'ensemble des livres, alors que c'est la sagesse de l'épreuve, alors que c'est la sagesse du sirat qui sera mis, yom al-qiyamah, le pont, alors que c'est la sagesse de la création du paradis et de l'enfer, du jugement et de la résurrection. Tout cela pour voir qui va haqqaq al-tawhid et qui va s'en détourner. Donc al-tawhid, c'est la chose la plus importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé toute sa prophétie et son message à nous inviter à ça. Il a enduré. Il a enduré longuement et difficilement pour que le tawhid nous parvienne de la façon la plus pure possible, la plus claire. Il a appelé au tawhid sallallahu alayhi wa sallam de toutes les bonnes manières. Na'am. Barakallahu fikum. Donc c'est la chose la plus importante. Si on vous demande quelle est la chose la plus importante à connaître, vous répondez tawhid, tawhidullah subhanahu wa ta'ala. Quant à la chose la plus grave qui nous a été interdite, il nous a été interdit, c'est shirk. Pourquoi? Parce que ça contredit la chose la plus importante, le polythéisme, qui consiste à adorer autre qu'Allah. Na'am. L'auteur ici a expliqué shirk par shirk dans al-ibad. Il a expliqué tawhid par tawhid al-ibad. Pourquoi? Car c'est ce point-là dans lequel les peuples ont divergé avec leur messager. Sauf ça qu'Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Quant au tawhid dans la seigneurie, c'était reconnu par la plupart des gens. Par la plupart des gens. Également, ce tawhid-là englobe, na'am, comprend le tawhid dans la seigneurie.
En d'autres termes, toute personne qui unifie Allah Azza wa Jalla dans le culte l'a forcément unifié dans la seigneurie. Mais ça n'est pas toute personne qui a unifié Allah Azza wa Jalla dans la seigneurie qui l'a unifié dans le culte. Puis l'auteur nous dit la preuve de cela. وَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorer Allah et ne lui associer rien. C'est-à-dire unifier Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère et ne lui assigner aucun associé dans cela. D'accord ? Allah Azza wa Jalla a commencé par cet ordre et c'est interdit. Ça nous montre que c'est la chose la plus importante. فَإِذَا قِيلَ لَكَ. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, t'enseigne en t'adressant une question. Si on te demande, et ceci afin que tu sois plus attentif et que tu retiennes mieux, al-fa'ida. فَإِذَا قِيلَ لَكَ. مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Si on te demande quels sont les trois principes fondamentaux que l'homme doit connaître, فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Réponds, la connaissance de son Seigneur, que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous développe les trois points. Le premier principe, al-aslu al-awwal ma'rifatu al-'abd rabbah, que le serviteur connaisse son Seigneur. Le serviteur c'est moi, le serviteur c'est toi, le serviteur c'est la créature. Rabbahu ar-rabb al-'azim huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Et notre Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَنْ رَبُّكُ. Donc si on te demande qui est ton Seigneur, si quelqu'un te dit qui est ton Seigneur, فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهِ الَّذِي رَبَّانِ وَرَبَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ وَهُوَ رَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ فَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِمَعْبُودٌ سِوَهُ. Si on te demande qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur c'est Allah. Je n'ai pas d'autre Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui a subvenu à tous mes besoins ainsi qu'à ceux du monde entier. Celui qui nous a éduqués, Allah tabaraka wa ta'ala, en nous octroyant de ce dont nous avons besoin. Il nous a comblés de ses bienfaits, c'est ainsi qu'il nous éduque. Il y a l'éducation des corps, il y a l'éducation du cœur. L'éducation générale, l'éducation particulière. L'éducation générale, c'est celle qui touche tout le monde, avec la subsistance des corps. Il y a l'éducation particulière, c'est avec la subsistance des cœurs. C'est qu'il a guidé à la vérité et le suivi de l'islam, du tawhid. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر قصة موسى مع فرعون. Puis l'auteur nous dit c'est lui que j'adore, je n'adore nul autre que lui. Ici il fait le lien entre l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans le culte. Il nous dit c'est mon Seigneur, c'est Allah, celui qui a subvenu à tous mes besoins, celui qui m'a éduqué et a éduqué l'ensemble des mondes en leur donnant de ses bienfaits. C'est ma divinité, c'est-à-dire la seule divinité qui mérite donc d'être adorée. C'est celui que j'adore uniquement et je n'adore nul autre que lui. Pourquoi ? Car c'est mon créateur, c'est mon seigneur, mon pourvoyeur. C'est donc le seul qui mérite l'adoration. La preuve de cela, qu'Allah est le seul seigneur, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. وَكُلُّ مَنْ سِوَ اللَّهِ عَالَمٌ وَنَوَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. Et toute chose en dehors d'Allah fait partie de l'univers. C'est une créature. Et je suis moi-même, ou je fais partie moi-même de cet univers. فَإِذَا قِيلَ لَكَ. La deuxième question. بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Par quoi, par quel signe as-tu connu ton Seigneur ? فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ. Réponds par ses signes et ses créatures. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُقَاتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعَ وَالْأَرَاضُونَ السَّبْعَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. Puis l'auteur nous cite des exemples des deux points. Parmi ces signes manifestes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et parmi sa création, il y a les sept cieux et les sept terres. Et tout ce qu'ils contiennent et tout ce qui se trouve entre les deux. Pour les signes, on nous cite des choses qui bougent. Et pour les créatures ou la création, on nous cite des choses qui en apparence ne bougent pas. Car le signe nous indique une chose et nous appelle à une chose. Et le fait que ça bouge, c'est plus prompt à ce que le but soit réalisé. Naam. Donc parmi les signes, il y a la nuit et le jour. Le soleil, et la lune. Et parmi ces créations, la création, il y a les sept cieux et les sept terres. Puis l'auteur nous cite des preuves pour les deux points. وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Donc la parole d'Allah Azza wa Jalla dans la traduction est: parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Donc on voit la succession du jour, de la lune, on voit le lever du soleil, le coucher du soleil. Tout cela, c'est des signes d'Allah Azza wa Jalla qui nous montre sa puissance totale, sa science parfaite, et donc le fait qu'il soit le seul à mériter l'adoration. Puis on nous dit, ne vous prosternez donc pas pour le soleil ni pour la lune. Pourquoi ? Parce que ce sont des créatures. Ce sont des créatures. Mais prosternez-vous plutôt pour Allah qui les a créés. Et si on nous montre que le seul qui mérite l'adoration, c'est le Créateur. Si c'est vraiment lui que vous adorez. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite une autre preuve du Coran. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Votre Seigneur, c'est Allah. Et vous n'avez pas d'autre Seigneur si ce n'est Allah. Celui qui créa les cieux et la terre en six jours, puis s'éleva au-dessus du Arsh. Il fait couvrir le jour par la nuit et se succède, et il fait recouvrir le jour par la nuit qui se succèdent interminablement. Il a créé également le soleil et la lune, les étoiles, en les soumettant à son commandement. Vraiment, à lui appartient la création et le commandement. Infiniment béni est Allah, Seigneur de l'univers. L'auteur a cité ce verset, car on voit que parmi les créatures d'Allah, Azza wa Jalla, la création d'Allah, il y a les cieux et la terre. Et de ce verset, on voit, on tire qu'Allah Azza wa Jalla est fil ulu, fil sama, il est élevé au-dessus de ses créatures, élevé au-dessus du arche. وَالْرَبُّهُ الْمَعْبُودُ الْمَعْبُودُ الْحَقُّ. Le Seigneur, c'est-à-dire celui qui, yani le Seigneur est celui qui est adoré, c'est-à-dire le seul qui mérite d'être adoré. Ce qui est voulu ici, le seul qui mérite d'être adoré. Puis l'auteur nous dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. La preuve de cela, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est le seul Seigneur, donc le seul à mériter l'adoration, et la parole d'Allah dans la traduction est: ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous-même ainsi que vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux. C'est lui qui a créé pour vous la terre, telle une couche, et le ciel, tel un toit bien construit. Il a également fait descendre des cieux, ou bien des nuages, une eau, et il a extrait des fruits de toutes sortes, afin que vous subveniez à vos besoins. N'attribuez donc pas d'associés à Allah, alors que vous savez très bien, c'est-à-dire, n'attribuez pas à Allah d'associés dans le culte, alors que vous savez très bien qu'il n'a pas d'associés dans la seigneurie. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, le grand exégète du Coran, nous dit: celui qui a créé toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. Celui qui a créé toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adorer. Puis l'auteur,
en voulant parfaitement conseiller les serviteurs d'Allah, en voulant parfaitement orienter les gens vers la droiture, il ne s'est pas contenté d'enseigner le tawhid et le shirk, mais il a cité des exemples d'adoration pour qu'on puisse savoir ce qui doit être exclusivement pour Allah et ce qu'il ne faut surtout pas donner à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en citant beaucoup d'adorations intérieures du cœur, car sur ces choses-là, certains pourraient être ignorants du jugement. Certains pourraient ne pas savoir que, par exemple, la crainte est une adoration. Donc il a cité beaucoup d'adorations et particulièrement des adorations intérieures. وَأَنْوَعُ الْعِبَادَةِ اللَّتِ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. Donc la définition de l'adoration, nous l'avons déjà citée. إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَ. C'est un nom général, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et action, que cela soit apparent ou caché. Comment reconnaître une adoration? L'auteur nous dit ici, التي أمر الله بها, tout ce qu'Allah a ordonné. Naam, ça c'est la définition de l'adoration et c'est le signe par lequel aussi on reconnaît l'adoration. Lorsqu'Allah ordonne une chose, c'est qu'il l'aime et l'agrée. C'est donc une adoration. Elle doit donc lui être réservée exclusivement. Et celui qui donne cette chose à autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme et sera un mushrik. Ce qu'Allah ordonne dans la religion, c'est qu'il l'aime et l'agrée. C'est donc une adoration. Si c'est une adoration, il faut la donner exclusivement à Allah. Et celui qui donne l'adoration à autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme majeur. Un acte de polythéisme majeur, il sort de la religion par cette action-là. Wal'iyadu billah.
مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها.
Parmi ces adorations, il y a, ou parmi les sortes d'adorations, les différentes sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées, il y a par exemple, donc ça n'est pas une liste exhaustive, il y a par exemple l'islam, la foi, l'excellence. Ceci reviendra, inshallah ta'ala, dans l'asl al-thani, dans le deuxième fondement. Parmi ces adorations, il y a également l'invocation, al-dua, la peur, l'espoir, la confiance, l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié, l'humilité, la crainte, le repentir, la demande d'aide, la demande de protection, l'imploration du secours, l'immolation, le vœu, et beaucoup d'autres sortes d'adorations qu'Allah nous a ordonnées. Ad-du'a se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle du'a ibad, du'a d'adoration, c'est dhul wal khudu' talaban limardatillah. Il y a également du'a mas'ala. وطلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. Dua d'adoration, ce sont les adorations. De manière générale, la prière, la zakat, le hajj, tout ça, on appelle ça dua ibad. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle dua mas'ala, la dua de demande. C'est lorsque la personne demande une chose qui lui est utile, que ça lui apporte un bien ou repousse d'elle un mal. Ça, c'est ce qu'on appelle du'a mas'ala. Mas'ala, ça veut dire demande. Si la personne demande à Allah, c'est une adoration. Si la personne demande à une créature, que cette créature est vivante, présente et capable, alors c'est permis. Il l'utilise en tant que cause. Il lui demande une chose permise. Alors c'est permis. D'accord ? Par exemple, il est en panne de voiture, il lui demande de la lui réparer. Il est vivant, il est présent, il est capable. C'est-à-dire que ça rentre dans la capacité du fils de Adam en général. C'est cela qui est voulu par Mada, lorsque les savants disent et qu'il soit capable. D'accord ? An yakuna hayyan hadiran qadiran, qu'il soit vivant, présent et capable. S'il réunit ces conditions, tu l'utilises en tant que cause et que la chose est licite, c'est permis. D'accord ? De lui demander quelque chose.
Par contre, s'il manque une de ces conditions, c'est du polythéisme majeur. Si tu demandes à un mort, c'est du shirk akbar mutlaqan. Quand, quand les savants disent mutlaqan, c'est pour dire qu'il n'y a pas de tafsil. Ça ne dépend pas. C'est du shirk akbar mutlaqan. Tu invoques un mort, c'est du shirk akbar mutlaqan. Tu invoques un absent, sans moyen de communication, reconnu, ça c'est du shirk akbar. Celui qui invoque un djinn, celui qui invoque quelqu'un qui ne l'entend pas, Naam, un wali qui est là-bas ou ici et là, ou un mort, c'est shirk akbar mutlaqan. Qadiran, si ça n'entre pas dans la capacité du fils de Adam, et que seul Allah Azza wa Jalla est capable de faire cette chose, si tu lui demandes cette chose à autre qu'Allah, c'est shirk akbar. Comme le fait d'entrer au paradis, sortir de l'enfer, être le pardon pour ses péchés, un enfant, et ainsi de suite. Ensuite, la peur, la crainte. Celui qui craint Allah Azza wa Jalla, il se rapproche de lui. Et la crainte profitable, c'est la crainte qui va faire que tu vas délaisser les péchés. Avoir peur, par peur du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une adoration. Ensuite, il y a la peur d'autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah. Et la peur d'autre qu'Allah, sans cause apparente. Khawf sir, ça c'est du shirk akbar. D'accord ? Le fait d'avoir peur du wali, alors qu'il n'est pas là, il n'est pas présent. Le fait d'avoir peur qu'il nous mette en enfer, ou bien qu'il ne nous aide pas à traverser sirat. Naam, ça c'est du shirk akbar. Cette peur-là, on peut l'avoir que pour Allah Azza wa Jal. Quant à la peur des bêtes féroces, ou avoir peur qu'un djinn nous touche d'un mal, naam, sans exagérer dans cette peur, et faire les causes, faire les dua, faire les adhkar, tout cela est une peur naturelle. C'est une peur naturelle. Naam, c'est une peur légitime et naturelle. Mais ton tawhid fait que tu avances, tu te préserves et tu ne crains pas cela au point de désobéir Allah Azza wa Jal. Il y a aussi la crainte muharrama, c'est la crainte qui te pousse à désobéir Allah Azza wa Jal sans arriver au niveau du shirk. Par exemple, quelqu'un a peur de son père. Son père lui dit d'aller lui acheter des cigarettes. Wal'iyadu billah. Comme il a peur de son père, il va acheter des cigarettes. Il sait que c'est haram, mais il lui ramène quand même. Naam. Ou la femme, elle ne porte pas le hijab parce que elle a peur de sa mère. Naam. Et sa mère n'aime pas le hijab, iyadan billah. Voyez, parce que, bah, elle est par exemple convertie. Amma al-muslim, qui déteste une chose qu'Allah a légiférée. Naam, hadi riddatun an l'islam, iyadan billah. Quant aux musulmans qui détestent une chose qu'Allah a légiférée, comme la prière, comme le hijab, comme Ramadan, ça rentre dans les annulatives de l'islam. Wallahu musta'an. Ensuite, al-raja. Al-raja, c'est l'espoir. Tu fais une action, tu espères qu'Allah l'accepte de toi. Tu te repens d'un péché, tu espères qu'Allah te pardonne. Ça, c'est al-raja. Et al-raja, l'espoir qui est profitable, c'est l'espoir qui te pousse à agir. Pas l'espoir qui te pousse à rester dans le péché et à dire Allah va me pardonner. Là. Ensuite, al-tawakkul, la confiance. Le fait de compter pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala en abandonnant son affaire chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc la personne, comment est-ce qu'elle concrétise at-tawakkul? At-tawakkul, c'est sidqu i'timadi al-qalbi 'ala Allah ta'ala. Naam. Ma'a thiqati bihi bi badli al-asbab. Donc la personne qui a at-tawakkul, c'est qui? C'est celui, naam, qui veut un bien ou se préserver d'un mal. Alors elle fait les causes et abandonne son affaire à Allah azza wa jalla. Au moment où elle fait les causes, elle compte que sur Allah. Ça, c'est le tawakkul. Le fait de compter pleinement sur Allah Azza wa Jal. Quant à l'obtention d'un bien ou la préservation d'un mal, c'est quoi? D'imad il qalbi ala Allah, fi husuli khayr ou def'i shar. Et tu as pleinement confiance en Allah Azza wa Jal. Tu sais que si Allah veut te donner cette chose, personne ne pourra lui empêcher ça. Naam. Et qu'il est parfaitement capable. Et ceci fait partie des plus hauts degrés dans la piété et l'adoration. Ensuite, il y a al-rahba wa al-rahba. Al-rahba avec le ghay, naam, c'est l'espoir avec plus d'entrain. Al-rahba avec le ha,
c'est le khawf avec yani la personne se sauve encore plus du châtiment d'Allah. Donc al-rahba, c'est le désir avec l'action. Na'am. Alors que al-rahba, c'est la crainte, et il se sauve du châtiment d'Allah Azza wa Jal pour aller vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il fuit d'Allah vers lui. De toute chose, tu te sauves. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. De toute chose, tu te sauves pour aller vers autre que lui. Lorsque tu la redoutes. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fuis pour aller vers lui. Tu fuis son châtiment pour aller vers son agrément. Tu fuis sa colère pour aller vers sa douceur et sa miséricorde. Allah nous dit dans le Coran, fafirru, sauvez-vous. Puis il nous dit, ilallah, vers Allah. Fuyez vers Allah. Allahu Akbar. Celui qui a l'image du serviteur désobéissant qui s'est sauvé de son maître. Na'am. Plus il est loin, plus il se sent en sécurité. Quant au serviteur, au sens propre, s'il se sauve de son créateur, de par la désobéissance, le seul moment où il retrouvera la quiétude et la sécurité, c'est s'il revient vers lui. Et s'il revient vers Allah Azza wa Jal, il trouvera Allah accueillant repentir, miséricordieux et bienfaisant envers lui. Et bienfaisant envers lui. Qu'Allah Azza wa Jal lui promet cela dans le Coran. Allah Azza wa Jal lui promet cela dans le Coran al-Karim. Ensuite, al-khushu' wal-khashiyah. Al-khashiyah, c'est la crainte qui repose sur la science et la connaissance de celui que tu redoutes. Al-inaba, c'est le retour vers Allah Azza wa Jal. Tu délaisses le faux, le mal, le péché, et tu reviens vers Allah Azza wa Jal, tu accours vers lui et tu observes la droiture. Al-isti'ana, c'est la demande d'aide. Al-isti'adha, c'est la demande de protection. Et al-istighatha, c'est la demande de secours. Al-isti'ana, c'est la demande d'aide. Celui qui demande l'aide à Allah l'aura adoré. Car il sait que la hawla wa la quwwata illa billah. Na'am. Celui qui demande l'aide à une créature, c'est permis sous condition. Celui qui demande la protection à une créature, c'est permis sous condition. Celui qui demande le secours à une créature, c'est permis sous condition. Que la créature soit vivante, présente et capable. Et qu'elle l'utilise en tant que cause. Quant à celui qui recherche l'aide, la protection ou le secours d'un mort ou d'un absent, ou dans une chose que seul Allah est capable d'accorder au serviteur, ceci est du polythéisme majeur, iyadan billah. Comme ceux qui invoquent Al-Hussein et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, par exemple, parmi Rafida, Ad-Dullal al-Mushrikoun, na'am, comme parmi ceux qui invoquent les saints, na'am, parmi Soufiya, et qui vont auprès des tombeaux et autres, tout cela est du polythéisme majeur. Ceci n'est pas de l'islam, et celui qui fait ça n'est plus musulman. Afan Allahu wa iyyakum. La différence entre l'isti'adha et l'istighatha, al-isti'adha qabla hulul ad-darar wa al-istighatha ba'da hulul ad-darar. La différence entre la demande de protection et la demande de secours, c'est que la demande de protection, c'est une chose qui a lieu, qui est faite avant que la personne ne soit dans le problème. Quant à la demande de secours, c'est une chose qu'on demande après avoir été dans le problème. Si tu crains un mal à venir, tu dis « A'ouzou billahi min kaza wa kaza » qu'Allah, je cherche protection auprès d'Allah contre telle chose et telle chose. « A'ouzou billahi min ash-shaytan ar-rajim » Na'am. « A'ouzou billahi min ad-dalala » « A'ouzou billahi min ash-shirk » « A'ouzou billahi min al-bid'a » « A'ouzou billahi min julasa is-su » Je recherche protection auprès d'Allah contre le polythéisme, contre l'innovation, contre les mauvaises fréquentations. Et ainsi de suite. Si tu es dans le problème, tu dis Allahumma arithini, ou Allah secours-moi. Yani, tu es dans le problème, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te sauve de ce problème, qu'il te soigne parce que tu es malade, par exemple. Ensuite, al-dhabh. Al-dhabh, c'est le sacrifice, le fait de sacrifier une bête. Tu dois sacrifier la bête bismillah, en disant bismillah et en recherchant l'aide auprès d'Allah et à la recherche de l'agrément d'Allah. Celui qui égorge une bête au nom d'un autre qu'Allah aura commis du shirk. Naam, celui qui égorge une bête pour autre qu'Allah aura commis également du shirk akbar. Comme ceux qui sacrifient des bêtes pour les sorciers. Naam, ou pour les shayatines. Il rentre dans une maison, il dit il y a des shayatines. Pour me préserver des shayatines, je vais égorger un poulet ou une vache ou autre. Comme ça, le chef des shayatines de l'endroit me défendra contre les petits shayatines. Ça, c'est du shirk akbar. C'est du politisme majeur. Tu vas être préservé dans ta maison. Tu vas être préservé en chemin. Tu vas être préservé au travail, partout. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te protège. Le djinn ne peut rien contre toi si ce n'est par la permission d'Allah. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire si ce n'est par la permission d'Allah azza wa jal. Wa fa hasbuka Allah. Allah te suffit. Allah te suffit. N'ajoute pas à ta maladie le politisme. Naam, n'ajoute pas à la maladie du polythéisme. Car avec la maladie, tu perds la santé, ou une partie de celle-ci. Mais avec le polythéisme, tu perds la vraie vie, la vie des cœurs, et tu perds le tawhid, le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur. Tu perds l'islam, ayyadan billah. Ensuite, an-nadr, le vœu, wa ilzamul mukallaf, nafsahu bi ibadatin lam takun wajiba fi asli shara'a. Un nadr, c'est le fait que la personne responsable se rende à elle-même obligatoire une adoration qui ne l'était pas à la base. Elle dit par exemple, je fais le vœu de jeûner 2 jours dans le mois de Sha'ban. Il s'oblige à faire cette adoration. À la base, elle n'est pas obligatoire, mais il se la rend obligatoire. Ceci n'est pas une chose à laquelle l'islam encourage, mais celui qui fait le vœu, il tient son serment et il s'acquitte de son serment si c'est une obéissance. Et pour cela, c'est louable, car elle tient son engagement. Yufuna bin nadr. Allah Azza wa Jalla a fait les éloges de ces gens. Wa ghayru dhalika min anwa' al-ibada allati amara Allah biha. Et autre que cela, parmi les adorations qu'Allah nous a ordonnées. On voit donc que ce sont des exemples et qu'il y a encore d'autres adorations. Par exemple, le ruku', par exemple, l'inclinaison. Par exemple, le mahabba, l'amour. Puis l'auteur nous dit kulluha lillahi ta'ala. Toutes les adorations reviennent de droit à Allah. Donc pour pouvoir mettre en pratique cela, il te faut savoir qu'est-ce qu'une adoration. D'accord? Il te faut savoir ce qu'est At-Tawhid et ce qu'est Ash-Shirk. Pour faire At-Tawhid et délaisser Ash-Shirk. Tu peux connaître des exemples. En connaissant cela, Inch'Allah, tu pourras observer le chemin de la droiture, concrétiser At-Tawhid et te préserver du Shirk. D'où l'importance de connaître les définitions, de noter, de comprendre, de questionner à ce sujet. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِينَ وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ هذا حديث ضعيف ويغني عنه الدعاء هو العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والدليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشية أو عفوا ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر وخافون يوما كان شره مستطيرا. L'auteur, rahimahullah ta'ala, cite, après avoir cité les exemples, les preuves de chacune, que chacun des points après cités entre dans les adorations, sont des formes d'adoration. Et que toutes ces choses-là entrent dans les droits d'Allah. Donc on ne doit pas donner adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve générale, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. Dua ibada et dua mas'ala. Puis il nous dit, celui donc qui donne, qui consacre une quelconque de ses adorations autre qu'Allah, est donc considéré comme un polythéiste et un mécréant. C'est-à-dire celui qui adore autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il prend une adoration, la donne à autre qu'Allah. Ça n'est pas un musulman. Donc on voit ici la sagesse de l'auteur dans son écrit. Il t'a d'abord appris ce qu'est l'ibad. Puis il t'a donné des exemples. Puis il te dit c'est le droit d'Allah. Puis il te dit le jugement de celui qui donne l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu apprends le tadarruj fil ilm wa fil da'wa. Tu apprends ainsi qu'il faut avancer étape par étape dans l'apprentissage, dans la mise en pratique et dans le prêche. Afin que les gens comprennent parfaitement. Il faut être doux dans l'enseignement, dans la transmission de la science. Naam. La preuve de cela, la parole d'Allah dans la traduction est, et celui qui invoque une autre divinité avec Allah, alors qu'il n'y a aucune preuve de cela, aura à rendre des comptes uniquement auprès de son Seigneur. Et certes, les mécréants ne réussiront pas. Dans ce verset, on nous montre que celui qui donne l'adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt qui invoque autre qu'Allah azza wa jal, est un kafir, car il a été appelé ainsi dans le verset. Aussi, le prophète sallam nous dit que ad-du'a, c'est l'adoration. Ad-du'a, c'est l'adoration. L'auteur nous dit le hadith ad-du'a mukhul ibad. Ce hadith comporte une faiblesse. Il y a un hadith proche de celui-ci qui est authentique. Ad-du'a huwa al-ibad. Adoration, c'est ou bien l'invocation, c'est l'adoration. Puis un autre verset dans la traduction est « Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Celui qui refuse de m'adorer par orgueil, entrera en enfer humilié. » Celui qui sait qu'Allah l'a créé, qui sait que c'est un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré ça, il s'enorgueillit et il décide de ne pas poser son front par terre. Il ne prie pas Allah, azza wa jalla, alors que c'est Allah qui l'a créé. Il ne prie pas Allah Azza wa Jal et ne jeûne pas pour Allah, ne s'acquitte pas de la zakat, alors que lorsqu'il est malade, c'est Allah qui le soigne. Quel est donc ce serviteur ingrat? Quel est donc ce serviteur qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billah. Dans ce verset, on voit que ad-du'a est une adoration, car Allah nous a ordonné de l'invoquer. Il a également appelé l'invocation adoration. Concernant la preuve, la traduction du verset, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si vraiment vous êtes croyants. Dans ce verset, dans la traduction du verset, Allah nous ordonne de le craindre, c'est donc une chose qu'il aime et agrée dans la religion, c'est donc une adoration. Si vous êtes croyants, ceci également nous prouve que c'est une adoration. Concernant l'espoir, la traduction du verset, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur. La preuve du tawakkul, le verset dans la traduction est « Remettez-vous-en uniquement à Allah si vraiment vous êtes croyant. » C'est un ordre, donc Allah aime et agrée cela, c'est donc une adoration. On a rattaché également cette chose-là à « Al-Iman », c'est donc une adoration. Celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit amplement. C'est une bonne rétribution, c'est donc une chose qu'Allah aime et agrée, c'est donc une adoration. concernant l'espoir d'être récompensé, la preuve, concernant la preuve de l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié, l'humilité. Traduction du verset, il s'empressait d'accomplir les bonnes actions. Il nous invoquait dans l'espoir de nos récompenses et dans la peur de notre châtiment. Il nous était totalement dévoué avec humilité. Ici, Allah Azza wa Jal fait l'éloge des serviteurs pieux. À travers ses actions, c'est donc des choses qu'il aime et agrée. Ce sont donc des adorations. Concernant Al-Khashiyah, la crainte révérentielle, n'ayez pas peur d'eux, mais craignez-moi. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt. Allah Azza wa Jal nous interdit de donner Khashiyah autre que lui. Et nous ordonne de la lui réserver. C'est donc une adoration. Concernant Al-Inaba, le retour vers Allah. Et ici, j'ai comme traduction le repentir. Meilleur que cette traduction, le retour. Le repentir, on l'utilisera pour être tawbah. Et pour l'inaba, le retour vers Allah. Revenir vers lui en accourant. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu ila. Revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. La preuve de l'isti'ana, la demande d'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Traduction, c'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. On a cité la demande d'aide à côté de l'adoration. Ça nous montre que c'est une adoration. Deuxièmement, l'exclusivité qui nous est indiquée en ayant cité, en ayant fait devancer la chose qui est habituellement vient par la suite. C'est une figure de style et une syntaxe dans la langue arabe qui nous montre et nous prouve l'exclusivité voulue dans la chose. Ici, en l'occurrence, la demande d'aide. Tout comme cette exclusivité a été citée pour l'adoration. Dans ce verset, on nous cite le but à réaliser l'adoration, puis la cause qui nous permettra d'atteindre notre but, la demande d'aide. Comme l'ont dit les grands savants, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et ou peut-être également son shaykh. Le premier point te purifie du politisme, l'adoration. Et le second point te purifie de l'orgueil, la demande d'aide, et du ujj, le fait de t'étonner de ta propre personne et de tes actions. Dans le hadith, lorsque tu recherches l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Ça, c'est le hadith Ibn Abbas, عند الترمذي وأحمد, lorsque le Ibn Abbas était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Puis, la preuve concernant l'isti'adha, la demande de protection. Les versets dans les traductions sont « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube » et « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». Concernant la demande de secours, la traduction du verset est « Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. » Et qu'il vous exauça aussitôt. « Iz tastarithuna rabbakum fastajaba lakum » في هذه الآية دليل على أن الاستغاثة عبادة ما وجه الاستدلال من الآية عند من en quoi ce verset est une preuve qui nous démontre que la demande de secours est une adoration عندك سنان حفظك الله. Le fait qu'Allah est exaucé. Et le fait qu'Allah exauce, c'est... Ça montre son agrément. C'est une rétribution, une bonne rétribution. Jazakallahu khayran. Puis, la preuve pour l'immolation, le fait de sacrifier une bête. Le verset dans la traduction est dit, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'a nul associé. Également, parmi la sunnah, Allah maudit quiconque immole une bête pour autre qu'Allah. La preuve concernant le vœu, le verset dont la traduction est, ils sont fidèles à leur vœu et ont peur d'un jour à venir durant lequel les grands malheurs se répandront. Si Allah Azza wa Jal vante le mérite de ceux qui s'acquittent de leurs vœux. Voici pour le premier tiers du livre Al-Aslul Awwal min al-Usul al-Thalatha. Voici la lecture et l'explication du premier principe, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous résume tout cela
en une minute. Qu'est-ce qui nous résume tout cela en une minute? C'est un livre que nous, qu'il faut mémoriser. Il faut comprendre et étudier. Dedans, il y a la bonne croyance et les bonnes bases. Naam. Donc, Indaman. Tafadhal. Au début, l'auteur, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous indique, yani, cite la basmala, puis fait dua pour le lecteur et nous cite quatre points à connaître. Le premier point, la science qui comprend la connaissance d'Allah, de son messager et de sa religion. Le deuxième point, la mise en pratique. Troisième point, la prédication. Les gens, inviter les gens à cela. Quatrième point, l'endurance devant les nuisances éventuelles. Jazakallahu khairan. Et la preuve de ces quatre points est suratou Al-Asr. Puis l'auteur nous a cité une deuxième introduction. Et dans cette deuxième introduction, il nous a cité combien de points à connaître? Trois points. Le premier point, qu'Allah nous a créé, donné la subsistance, il ne nous a pas laissé en vain. Il nous a envoyé le messager, celui qui l'obéit entre au paradis, celui qui désobéit entre en enfer. Naam. Le deuxième point, Allah n'agrée pas qu'on lui donne un associé dans l'adoration, quand bien même il serait un ange rapproché ou un prophète envoyé. Naam. Le troisième point, l'alliance et le désaveu. Puis la troisième introduction, l'auteur nous enseigne Naam Al-Hanifiyya. La Hanifiyya est la voie de Ibrahim alayhi salam, qui consiste à adorer Allah azza wa jalla seul d'un culte sincère. Et c'est pour cela qu'Allah nous a tous créés, comme il le dit dans sa parole. Naam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens de يعبدون, يوحدون. À chaque fois qu'on nous cite l'adoration, ça veut dire l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans le culte. D'accord? Ensuite, l'auteur nous dit, il nous interroge. Si on te demande qui est ton Seigneur, ou bien quelles sont les trois bases, Naam, qu'est-ce que tu dois répondre? Qu'est-ce que tu devras répondre? La connaissance d'Allah, avant cela, les usul salat, et quelles sont les trois bases? La connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, la connaissance de son prophète. Si on te demande qui est ton Seigneur, dis, c'est Allah, celui qui m'a créé, m'a donné la... Non, et m'a éduqué, et éduqué l'ensemble des mondes. C'est donc... ma divinité est le seul que j'adore et je n'ai pas d'autre divinité en dehors de lui. Naam. Si on te demande par quelle chose est-ce que tu as connu Allah? Naam. Avec ses signes manifestes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a le soleil et la lune. Parmi ces créatures, les cieux et les terres. Naam. Tout cela nous appelle à quoi? À adorer Allah Azza wa Jalla, un culte sincère. الأصل الأول معرفة الله معرفة العبد ربه que le serviteur connaisse son ماذا son seigneur. Il doit savoir qu'Allah Azza wa Jal, du fait que c'est ton seul maître, seul créateur, seul pourvoyeur, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Naam. Et l'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action. Que cela soit apparent ou caché. Naam. Puis l'auteur nous a cité des exemples. Et pour reconnaître une adoration, il y a plusieurs moyens. Parmi ceux-là, tout ce qu'Allah a ordonné, tout ce qu'Allah aime et agrée, lorsqu'Allah fait les éloges dans le Coran, ou lorsqu'il y a une bonne rétribution, Naam. Ou si Allah rattache telle chose à sa science, dans certains versets. Et celui qui donne une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un polythéiste, kafir. A'adana Allahu wa iyyakum. Walhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك